Dans Paris, la ville insoucieuse, il est 10 individus qui jouissent de ce très rare et très glorieux privilège d'arrêter d'un signe la curiosité qui flâne ou qui passe, de faire, quand il leur plaît, s'égayer, s'émouvoir, s'enthousiasmer, s'indigner, courir et jaser les Parisiens. Édouard Manet est de ces 10-là. Voici ce qu'écrivait le 17 avril 1880 un chroniqueur de la revue hebdomadaire La Vie Moderne, ajoutant encore à propos de celui qui, au fait de sa gloire, n'avait plus que 3 années à vivre, ce tapageur à l'horreur du tapage, cette célébrité bruyante redoute le bruit et la foule. Pendant une bonne partie de sa vie, Édouard Manet aura vécu sur cette ambiguïté, lui qui rêvait d'être accueilli au salon, qui espérait la reconnaissance du public comme de la critique, devint un peu malgré lui le chef de file d'artistes rebelles en construisant sa notoriété sur des tableaux qui firent scandale, Le Déjeuner sur l'herbe ou Olympia pour ne citer que les plus connus. Œuvres retentissantes qui contribuèrent à faire rentrer la peinture dans la modernité, mais Manet était aussi un peintre empreint de culture classique. C'est ce que montre l'exposition proposée en ce moment et jusqu'au 3 juillet au Musée d'Orsay à Paris. Manet, inventeur du moderne, 235 œuvres réunies pour l'occasion, dont nous allons parler avec nos invités.
Et le premier d'entre eux, c'est le commissaire de cette exposition. Bonjour Stéphane Guégan.
Bonjour.
Vous êtes également conservateur au musée d'Orsay. Vous êtes l'auteur d'un hors-série découverte Gallimard intitulé Manet, l'héroïsme de la vie moderne. Et puis vous êtes par ailleurs l'auteur d'une biographie de Théophile Gautier qui doit sortir après-demain, qui est publiée par les éditions Gallimard, à l'occasion bien entendu du bicentenaire de la naissance de l'auteur. Une biographie dans laquelle un long chapitre est consacré aux années Manet. À vos côtés se trouve Beth Archer. Brombert, je le dis une fois en anglais avec l'accent anglais et
non,
évidemment
va,
Hervé est mort de rire, mais je le dirai plus sans doute avec
non,
un accent
parfait,
français
Caroline.
Par la suite. Vous êtes historienne de la culture américaine, vous avez traduit et édité en anglais le poète français Francis Ponge et vous publiez chez Azan une biographie de Manet intitulée Manet, un rebelle en redingote. Et nous reviendrons sur le titre notamment de cet ouvrage. Et puis nous avons invité un spectateur averti, lui-même artiste peintre, en la personne de Jean Le Gac. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes présenté comme un des représentants de la nouvelle figuration, auteur de plusieurs livres mêlant photographie, dessin et texte et mettant en scène souvent un personnage, le peintre. Il se trouve que vous participerez à l'occasion de l'exposition collective qui ouvrira ses portes le 29 avril à l'espace Jacques Villeglé de Saint-Gratien dans le Val-d'Oise, à cette exposition Le Torero Mort, une exposition qui est une relecture par 7 artistes, dont vous, d'un des tableaux les plus célèbres d'Édouard Manet. On y reviendra bien évidemment.
Alors Stéphane Guégan, c'est à vous que nous allons poser la première question. La dernière grande exposition consacrée à Édouard Manet, c'était en 1983 au Grand Palais à Paris, exposition dirigée par Françoise Cachin, tout récemment disparue. Alors voici ce que dit un des textes qui accompagne cette exposition. La trentaine d'années qui nous en séparent ont été très riches en recherches et réflexions utiles. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous avez appris de nouveau sur Manet qui pourrait justifier qu'on en fasse une lecture différente aujourd'hui par rapport à 1983.
On avait tendance à voir en Manet un moderne inactuel, paradoxalement un artiste dont Malraux et Bataille avaient au fond défini la radicalité une fois pour toutes. Et avec les travaux des spécialistes, le livre de Beff notamment, on s'est aperçu que c'est un artiste qui était ancré dans le 19e siècle, qui répondait à des objectifs conformes à son temps, qui a mis sa vie en scène dans sa peinture, qui était plus entouré qu'on l'avait longtemps cru, qui a été soutenu d'emblée par une partie de la critique, et qui s'est voulu surtout, qui s'est voulu porteur d'une ambition qu'on a fini par ne plus comprendre au 20e siècle. Cette ambition, c'était celle de Titien, de Rubens, de Velázquez, de Delacroix. C'est-à-dire, au fond, réincarner, réinsuffler une modernité dans tous les genres de la peinture. Ne jamais se spécialiser, ne jamais accepter la banalisation du sens dont le 19e siècle est aussi, hélas, le siècle. Donc, c'est un autre artiste qu'on essaie de montrer dans l'exposition. C'est d'ailleurs pas une rétrospective, contrairement à celle de ma chère Françoise Cachin. C'est une exposition qui situe l'artiste, qui ouvre des fenêtres, des perspectives, qui donne des clés de lecture et qui surtout montre Manet dans la tradition, non pas post-moderne, comme on pouvait encore l'écrire dans les années 80, 1980, mais post-romantique. Qu'est-ce qu'on fait après Delacroix ?
Alors Delacroix, justement, c'est un tableau qui s'appelle « Hommage à Delacroix » qui ouvre l'exposition, qui n'est pas un tableau d'Édouard Manet, mais d'Henri Fantin-Latour, sur lequel on voit donc un portrait de Delacroix et puis autour une demi-douzaine de personnages, une dizaine même de personnages, dont Manet et Baudelaire. Alors ça, je dois dire, c'est un drôle de choix que d'ouvrir une exposition consacrée à Manet par un tableau qui n'est pas de lui. D'où vient cette idée ?
D'abord parce que j'aimais l'idée d'utiliser le tableau de Fantin comme un chapeau duquel, on tirait comme ça un papier qui était... Cette idée est venue, je crois, d'une constatation. C'est-à-dire que je pense qu'une partie de notre public, le tableau est à Orsay, dans les salles, ne comprend pas ce tableau. Ne comprend pas pourquoi les artistes dits réalistes, c'est comme ça qu'on les appelait, avant de les appeler les modernes, avaient tenu à rendre hommage à Delacroix immédiatement après sa mort. Pourquoi il y a là Baudelaire, Champfleury, qui est l'homme de Courbet, Whistler, l'Américain, qui fait sa carrière en partie à Londres, Le Gros, Fantin-Latour lui-même, et d'autres d'ailleurs. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'idée du cénacle. C'est que Manet n'a jamais appartenu à un cénacle proprement dit, mais il a toujours vécu en réseau. Des critiques les plus importants, des écrivains les meilleurs de son temps, des artistes les plus prometteurs sont toujours là à graviter autour de lui. Il s'est nourri de tout ça. Parce que le XXe siècle nous a aussi légué l'idée d'un artiste isolé qui aurait construit contre vents et marées sa peinture et sa carrière. D'ailleurs, plutôt sa peinture que sa carrière. Ce que nous montrons aussi à Orsay, c'est que c'est un homme qui a pris en charge sa carrière. Donc c'est une image qui me semblait intéressante à placer au seuil de l'exposition pour rappeler immédiatement une situation. Manet émerge au début des années 60 quand Baudelaire a fait son deuil de la peinture. Vous savez, vous êtes le premier dans la décrépitude de votre art. Delacroix meurt. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accepte la spécialisation ? Est-ce qu'on devient un paysagiste comme Monet, par exemple, ou Sisley ? Ou est-ce qu'au contraire, on cherche à faire vivre ou à faire revivre le grand art ? Et je pense que, vous parliez de classicisme chez Manet, je pense que c'est ça l'ambition de Manet. C'est être le Delacroix de la nouvelle peinture. Aragon a dit de Picasso qu'il avait été le Delacroix du XXe siècle. On peut appliquer cette formule à Manet.
Alors Beth Brombert et Jean Le Gac, vous avez vu cette exposition au musée d'Orsay. Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que vous avez été vous-même surpris par cette entrée en matière en exposant l'hommage de Delacroix ?
Non, ça ne m'a pas surprise du tout. Parce qu'il est parfaitement clair que Manet n'a jamais oublié ses prédécesseurs. Que Delacroix était très important pour lui. Le fait même qu'il ait fait cette copie de la barque de Dante, il l'a fait deux fois, il est évident qu'il faisait partie tout de même de son passé. J'ai tendance à croire des fois que Manet un peu, et d'ailleurs ça fait partie du titre, en tant que rebelle dans l'art, était aussi rebelle vis-à-vis de sa famille, parce qu'il n'a pas fait ce que la famille voulait qu'il fasse. Et alors, il était justement rebelle dans le sens d'un fils qui, sans renier ses parents, veut se distancier, faire autre chose, être un individu. Et certainement, c'est ce qu'il a fait à tout point de vue. C'est-à-dire, il n'est pas devenu juriste.
Comme son père.
Ni marin. Bah, ça, c'était un compromis, de toute façon. Et donc, l'art du musée était très important pour lui. Pas pour copier.
Et donc, cette exposition, Beth Brombert, vous en avez pensé quoi ? Je reviens un petit peu d'abord à l'exposition. Ouais. On va vraiment revenir sur l'art de Manet ensuite. Mais première impression de visiteuse avertie.
Ah bah, je dois dire, j'ai été éberluée. Ça, c'est une très belle exposition, admirablement.
Vous dites ça parce qu'il y a Stéphane Guégan à votre droite.
Oui, mais il me tord par le bras. Non, parce que ça donne vraiment une vision très, très large de l'œuvre de Manet. Et on voit justement cette juxtaposition et même en individuel, les différentes étapes de la carrière de Manet. Il n'a pas fait une seule chose. Il a voulu faire beaucoup de choses. Il ne voulait pas surtout se répéter. Mais il a travaillé toujours dans le cadre, l'ambition de devenir le peintre de musée de son temps.
Est-ce que c'est une exposition, Bess Bamberg, qui correspond à l'image que vous voulez donner de Manet dans votre biographie? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faudrait lire votre biographie et aller à l'exposition comme étant deux visions très complémentaires?
Sûrement, sûrement. Parce que l'un des thèmes principaux, si vous voulez, de ma biographie, c'est qu'il faut un contexte pour Manet. Pace, Bataille et Malraux, c'est pas un manieur de pinceau, c'est un penseur. Et c'est quelqu'un qui sent profondément beaucoup de choses. Et donc, on a beau dire qu'il n'a pas de sujet, c'est pas vrai. Il y a des sujets. Il y a des sujets même annoncés et mis en emphase, comme par exemple la mort de Maximilien. Il aurait pu l'appeler tout simplement une exécution. Mais non, il a daté exactement.
C'est pas un manieur de pinceau, dit Bess Bamberg, c'est un penseur. Ça doit vous plaire, ça, Jean Le Gac, vous aussi, vous avez visité cette exposition.
Oui,
à
je l'ai visité récemment. J'ai été très intéressé par les alentours de l'exposition, justement. Le fait que cela commence par ce que je croyais être un peintre-pompier, Thomas Couture.
Or, c'est le maître chez qui il va faire son apprentissage.
Oui, mais Thomas ça pose Couture. Toute une question, c'est-à-dire, ces peintres-pompiers, pourquoi ont-ils si mauvaise réputation? Peut-être qu'il faudrait essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est leur entourage? Est-ce que c'est la société qui a amené des sujets bêtes? Parce que c'était des sacrés peintres. Là, les trois esquisses sont merveilleuses, absolument. Et on voit vraiment poindre le Manet qui, constamment dans sa carrière, va brouter la surface du tableau, va faire venir en avant comme ça des parties extrêmement juteuses, extrêmement bien peintes. La platitude aussi est déjà là, pratiquement.
Hein. Platitude, pas au sens où ce serait mauvais, hein, platitude.
Non, dans le sens plat,
sens de relief,
dans le sens estampe japonaise, dans le sens Matisse.
Rien que ce détail, par exemple, de la chemise blanche est tellement extraordinaire quand on voit la facture.
La chemise de cette chemise. Il faut peut-être dire.
De quel tableau, là?
Il faut peut-être dire qu'il s'agit de
Stéphane
quatre
Guéguen.
Esquisses.
Stéphane,
il faut peut-être dire qu'il s'agit de quatre esquisses pour le grand tableau que Couture est en train de peindre pour la Seconde République quand Manet entre dans l'atelier. Et c'est un tableau patriotique, les Enrôlés 1792. Et donc, il y a une figure d'ouvrier avec une chemise blanche. Et ce blanc profond, grumeleux, énergique, annonce, bien sûr, enfin annonce, n'a pas manqué de retenir l'attention du jeune Manet.
Et pas seulement le blanc des chemises, mais le blanc des visages aussi.
Des visages.
Dès
le
début de cette exposition, ce qu'on voit, c'est le blanc des visages. Alors, est-ce que ce blanc des visages était propre à Manet ou est-ce qu'il l'a pris justement à son maître, Thomas Couture, Stéphane Guéguen?
Couture, alors, ça c'est vraiment une des... c'est pas à moi de jeter des fleurs hein, mais, sur cette exposition, mais c'est une des sections qui m'intéressait le plus à concevoir parce que nous savions que Couture avait été influent, nous savions que cet apprentissage de 6 ans avait marqué le jeune artiste, mais nous ne l'avions pas montré. Donc nous, gens de musée, nous aimons montrer les choses. C'est une expérience visuelle, une exposition. Et donc pour la première fois, on rapproche Manet de son maître, et notamment sur le sujet du portrait. Vous avez raison d'y insister. Les portraits de Couture, en marge donc des grandes compositions qui nous semblent maintenant un petit peu vieillies, ont conservé leur énergie vitale extraordinaire. Couture, qui intéresse Baudelaire d'ailleurs, il faut regarder la correspondance de Baudelaire, Couture avait frappé ses contemporains justement par sa capacité à faire vivre le costume moderne, les jeunes gens en costume noir, et puis cette façon de faire sortir à la fois la figure et le visage de la toile. Ce que Manet va beaucoup méditer à mon avis. Donc c'est ce point de rencontre qu'on voulait rappeler d'emblée.
Donc ça veut dire que Manet n'est pas en rupture par la suite avec celui qui a été son initiateur, mais il est dans la continuité de ce qu'a pu lui montrer
Couture. Ce qui est toute l'histoire de la peinture. Vous savez, c'est le XXe siècle qui a inventé le mot de rupture. Effectivement, si Manet était resté un émule de Couture, on ne serait pas là à en parler aujourd'hui. Donc il y a une forme de rupture. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir aussi les continuités, les rémanences, les échos, les résurgences. C'est ça qui est passionnant.
Alors, cette partie de l'exposition, c'est la première qui est consacrée effectivement aux relations entre Manet et Couture. Une exposition qui compte 9 sections avec alors un certain nombre de grands tableaux qu'on est ravis de voir et qui effectivement sautent aux yeux. Jean Le Gac, quels ont été les tableaux de cette exposition que vous avez eu le plus pris le plus de plaisir à voir. C'est quoi? C'est Olympia, le déjeuner sur l'herbe.
Je dois dire, j'ai vu les trois expositions, hein, celle de 83, celle de 2003 et celle-ci. Alors, pour cette fois, parce que mes humeurs changent, évidemment, comme chez tout le monde, le tableau qui m'a vraiment intéressé, c'est le balcon. Parce que s'y superpose l'interprétation qu'en a fait Magritte, avec son humour froid, distancié, puisqu'il a transformé les personnages en cercueils, même un des cercueils est plié en deux.
Alors qu'est-ce qu'on voit sur le balcon?
De Magritte?
De Manet.
Alors, justement, se superposer donc le tableau de Magritte, mais ça ne peut pas empêcher la jeunesse merveilleuse de Berthe Morisot, qui est au premier plan, je crois, hein, c'est Berthe Morisot, c'est qui surgit et qui est d'une beauté stupéfiante. Il devait en être amoureux, je pense.
Il en était,
hein, c'est cela. C'était sa belle-sœur.
Elle va le devenir.
Ah mon Dieu, il aurait été le cochon.
C'était encore possible. Enfin, c'était un homme marié, mais tout était encore possible.
Ah bon. On voit, d'abord, j'ai vu l'influence de la photographie, parce qu'il y a quand même ce réglage des points de précision, le premier plan très net, et puis le personnage derrière, qui est un peintre, il me semble.
Ils sont trois, hein, sur le balcon. Oui,
et une violoniste et un peintre, effectivement.
Qui commence à devenir flou. On voit poindre cela et qu'il emprunte à la photographie, c'est très net, ça. Et ça m'a beaucoup intéressé, parce que dans tous les tableaux, après, quelle que soit la période, il va faire cela, mais pas de cette manière logique. Il ne va pas aller du premier plan à l'arrière-plan. Il va faire venir en avant certaines parties pour le plaisir de peindre. Et là, quand même, je dirais, c'est un très grand peintre, pas seulement un intellectuel.
Beth Brombert, la même question pour vous. Quel est le tableau qui vous a le plus séduit, même si vous les connaissez tous par cœur?
Je dois dire que il y a plusieurs. Je ne peux pas dire un seul.
Si vous allez faire un petit effort.
Je n'ai pas fini. J'en mettais quatre.
Je vais pas en parler, mais de toute façon, pas un seul. Il me semble que le déjeuner sur l'herbe reste vraiment mystifiant, extraordinaire, fait rêver. Et ça, d'ailleurs, c'est en grande partie le génie de Manet qui le distingue des impressionnistes. Il vous fait rêver, il vous fait penser. Vous êtes perplexe devant ces tableaux. Alors, le déjeuner sur l'herbe, évidemment, l'est par excellence. Olympia reste étonnante chaque fois que je la vois. Mais les parents de Manet, splendides.
Il a peint ses parents. On voit le père et la mère, monsieur et madame Manet.
Et il y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas très souvent, que je trouve absolument exquis, c'est Clair de Lune sur le port de Bordeaux, qui est, je trouve, un tableau étonnant. Et ça m'a fait grand plaisir de le retrouver.
Presque expressionniste.
Stéphane Guégan, est-ce qu'on peut s'arrêter justement un instant sur le cas Olympia, puisque Olympia a fait scandale, il faut quand même le rappeler, le déjeuner sur l'herbe aussi, mais Olympia peut-être encore plus. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur ce scandale d'Olympia, sur le fait que à son époque, Manet était quand même assez mal reçu, qu'il a fait l'objet d'un certain nombre de critiques, de remontrances, en particulier sur ce tableau, puisqu'on voit allongée une femme avec une main posée sur son sexe, et puis à ses pieds, des pieds qui sont dans des pantoufles, qui sont des pantoufles, de satin, avec des fleurs dessinées dessus, et un chat qui est sur le lit, et lui apporte un bouquet de fleurs, une jeune domestique noire, et un bouquet de fleurs. Ça n'est pas dit dans le tableau, mais on sait l'histoire. Donc, ce serait un bouquet de fleurs apporté par l'un des prétendants, des clients, puisque manifestement, cette Olympia est une jeune prostituée. Rappelez-nous le contexte de ce tableau et ce scandale quand même faramineux.
Il faut d'abord rappeler que le Second Empire et le jury académique est suffisamment libéral pour montrer ce tableau au salon. Contrairement au Déjeuner sur l'herbe qui était resté à l'écart. Il avait fallu, au fond, toute l'énergie de Napoléon III pour le montrer dans une sorte de salon off.
Le salon des refusés.
Le fameux salon des refusés. Dès 64, donc, Manet revient au salon. Et en 65, effectivement, avec Olympia, qui est un tableau sur lequel il travaille depuis quelques années déjà. D'ailleurs, un tableau issu aussi de sa méditation des années couture. C'est très intéressant. On essaie d'ailleurs de reconstituer l'archéologie du tableau. Mais Manet, donc, est déjà un homme dont on parle, bien avant 1880, c'est l'artiste dont on parle. L'artiste donc enveloppé de scandales déjà, c'est le scandale des refusés. Et puis, patatras, Au lieu de se contenter de montrer à nouveau une scène de tauromachie, par exemple, et là, on entre dans une sorte de bordel, disons-le, ou en tout cas dans l'alcôve d'une courtisane, puisque Olympia renvoie directement au nom des courtisanes, à la fois aux grandes courtisanes de la Renaissance italienne, mais aux courtisanes de l'époque qui intéressent par exemple Zola. Alors, ce qui est très intéressant,
c'est qu'il va faire une nana.
Hein, qui va faire une nana quelques années plus tard. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent là, bien sûr, l'empreinte de la peinture italienne, c'est la Vénus d'Urbino du Titien, avec un petit chien à la place du chat. Mais déjà, cette insistance sur la main baladeuse, si j'ose dire. Ce qui est très frappant dans le tableau de Manet, c'est qu'il arrive à combiner la référence à la grande tradition avec la réalité d'un corps, ce regard effronté, cette souveraineté qu'il donne à Victorine, qui se tourne vers nous, cette relation avec le spectateur. À la fois, c'est le bouquet, mais c'est aussi le chat noir à la queue dressée qui semble voir quelque chose qui appartient à notre espace. Et donc, non seulement il trouble le visiteur par l'audace intrinsèque de son tableau, mais aussi par la façon dont il, au fond, entre dans notre espace. Et alors là, ça déclenche des réactions d'une violence inouïe. Je pense que c'est sans doute le tableau, avec les grands tableaux religieux, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ils sont là aussi au salon, qui ont été les plus étriés par la critique.
Mais attendez, Stéphane Guégan, oui. c'est pas la première fois que dans des peintures, on présente des nus. Qu'est-ce que ce nu-là a de si choquant au point qu'on en fasse un des scandales de l'histoire de la peinture moderne?
Mais évidemment, c'est le regard d'Olympia qui nous regarde directement. Ça veut dire que son regard va au-delà du cadre, ce qui n'est jamais arrivé, et surtout pas nul, on ne fait pas ça. Le regard est ailleurs, est à l'intérieur du cadre, et une fausse innocence, par exemple, de la Vénus de Titien. Mais cette fois-ci, c'est un regard vraiment effronté. Et personnellement...
Mais Goya avait déjà fait ça. Des regards peu effrontés.
Elle a la tête en arrière, la marin.
Qui nous regarde, qui nous interpelle.
Quand vous comparez la marana desnuda du Prado, vous sentez combien, là, le corps, sa présence charnelle, la modernité même de ce corps, le fait que, dans ses proportions, elle ne répond pas au canon classique, tout ça est présent beaucoup plus que chez Goya.
Jean Le Gac.
Oui, c'est une femme avec une identité. Voilà. On sait que c'est Madame une telle. Voilà. Tout le monde pouvait la reconnaître au salon, ceux qui la connaissaient. Hein, moi, je voudrais faire dévier tout petit peu la discussion parce que j'y ai vu l'influence de Ingres. Dans le dessin des ombres linéaires comme ça qui font le modelé du corps, parce que c'est pas aussi plat qu'on le dit, c'est un modelé très plein, mais c'est obtenu comme Ingres l'a inventé au fond, c'est obtenu par cette ombre qui devient grasse, qui devient plus étroite, qui est sur le bord de la figure.
C'est très juste, et à vrai dire, mon rêve, pour tout vous dire, était de montrer près d'Olympia la grande odalisque du Louvre, comme ces deux tableaux d'ailleurs avaient été montrés au tout début du XXe siècle, au Louvre même. Il suffit de relire Proust raconte les réactions du public à ce moment-là. Donc il y a eu une rencontre entre Ingres et Manet, et Antonin Proust, qui est le vieil ami de Manet avant de devenir le ministre des Beaux-Arts de Gambetta en 81, a, dans ses mémoires, rappelé combien Manet était obsédé par Ingres.
Alors, il y a donc... Donc la référence était pertinente.
Non, vous avez très bien vu, je vous en félicite, vous avez très bien vu ce qu'on a essayé précisément de démontrer. Il y a quand même une sanguine près de qui doit dater, à mon avis, des années post-couture et qui est très proche du dessin ingresque dans l'exposition.
Si je puis continuer là-dessus, j'ai été très surpris à l'exposition par les dessins qui me paraissent pas si bon que ça. Attendez. Par contre, les gravures, si, mais elles sont déjà d'après le tableau. En fait, il construit son tableau par la peinture. Il ne semble pas qu'il y ait de préalable. J'imagine que si, mais ça ne se voit pas du tout. Tous les tableaux esquissés, par exemple, vous avez des bras, des mains, ils sont déjà là. Ce ne sont que des taches et des virgules.
C'est le cas,
je confirme. Je veux dire, il a beaucoup dessiné. Il a toujours beaucoup dessiné. Il a dessiné de manière assez classique jusqu'au début des années 60. On montre justement ces choses-là qu'il fallait montrer pour rappeler quelle virtuosité était la sienne avant qu'il... De cette manière, il gauchisse son style volontairement. pour inventer une peinture-peinture. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment le prototype de l'odalisque, un gresque, on a un dessin qui le montre, va devenir Olympia. Il aurait pu ne faire qu'un nu, c'est un peu votre question, hein. Il aurait pu ne faire qu'un nu parmi d'autres. Et il faut quand même rappeler que nous sommes à un moment de l'histoire de la peinture et de l'histoire du salon où les nus féminins abondent. Et certains sont assez égrillards. Lui, il va plus loin. Il va dans l'érotisme pur, hein, comme l'aurait dit Michel Léris. C'est autre chose.
En faisant cet Olympia ou le déjeuner sur l'herbe à Besse-Brombert, est-ce que Manet sait qu'il va le faire scandale? Est-ce qu'il cherche le scandale? On a davantage l'impression qu'au contraire, c'est quelque chose qui le gêne. Lui, il aimerait être un artiste reconnu, un artiste de son temps,
un artiste moderne. Son innocence, sa naïveté, il aurait dû comprendre que ça allait faire scandale, il me semble, étant donné que la grande différence avec son nu et par exemple les nus de Dingre ou de n'importe qui, Cabanel, tous les autres, c'est que ce n'est pas un nu idéalisé. Olympia, c'est Victorine Meurent. C'est une femme
déshabillée
de cette période.
Qui est un de ses modèles favoris.
Il n'y a rien. Pas une touche flatteuse. C'est-à-dire, c'est telle qu'elle est.
Je crois que ce que l'on sent aussi, et vous savez qu'après la mort de Manet, Victorine a écrit à la mère du peintre pour lui rappeler ce qui s'était passé, l'intensité de cette relation. Qui fait une partie du génie de Manet au début des années 60. Donc elle écrit à sa mère, et ce témoignage est exceptionnel. Et on le sent devant le déjeuner, devant la chanteuse des rues, devant Olympia, on sent cette intensité. C'est-à-dire que ce n'est plus un modèle parmi d'autres, c'est un modèle. Et le public est effrayé à l'idée de voir un modèle à la place d'une Vénus, d'une nymphe ou d'une déesse. Mais on sent cette intensité, on sent ce qui se jouait entre eux. Et c'est sans doute une première dans la peinture.
Alors, ce que montre très bien l'exposition au musée d'Orsay, c'est que Manet était vraiment empreint de culture classique. Hein. On a multiplié les références et pourtant l'exposition s'appelle Manet, l'inventeur du moderne.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut... même du moderne avec le M majuscule.
Oui. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut distinguer moderne avec un M majuscule de modernité, Stéphane Guégan? Comment est-ce qu'il faut comprendre le titre que vous avez donné à l'exposition?
À vrai dire, il y a deux choses. Il y a le mot inventeur qui renvoie à l'idée d'invention telle qu'on pouvait encore d'ailleurs la concevoir, telle qu'on la conçoit dès la Renaissance italienne. C'est-à-dire que le peintre fait acte de création. Je pense que c'est ce qu'on voulait rappeler. Le réalisme, s'il y a réalisme, c'est un réalisme subjectif.
Il est le premier à faire ça.
Non, mais c'est en tout cas celui qui insiste. Courbet, par exemple, Courbet est un créateur. Simplement, il joue une autre carte en 1850. Il joue celle du naïf, de l'innocent, de celui qui brûle le Louvre, hein, de celui qui peint ce qu'il voit. Ce qui est absurde, on le sait très bien, lui-même vient des ateliers romantiques, lui-même est l'ami de Baudelaire en 48, le grand ami de Baudelaire. Donc, mais sa stratégie,
mais c'est pas lui le peinre de la vie moderne pour Baudelaire.
Non, sa stratégie, c'est la rupture. Parce qu'il veut un peintre urbain. Courbet est rustique, Courbet est paysan d'une certaine manière. Et Courbet a joué de cette carte-là, alors que c'est un notable de la campagne, hein, vous le savez. 10 ans plus tard, les choses ont changé d'abord parce que Courbet occupe une place, et quelle place? Donc il s'agit de trouver une autre façon de positionner le réalisme. Donc un réalisme qui ne se conçoit pas comme l'opposé, par exemple, du romantisme de Delacroix. Et donc le mot inventeur renvoie à ça. C'est-à-dire que vous savez que le mot clé de Baudelaire, c'est imagination. Le 19e siècle, pour Baudelaire, il y a un divorce entre la peinture et l'imagination au 19e siècle. Et Manet est conscient de ça. Donc c'est ça qu'on voulait rappeler par le mot inventeur. Et moderne, avec un M majuscule, c'est malarméen, si j'ose dire. C'est-à-dire que la modernité aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Tout est moderne. Les hommes politiques, tout est moderne. Et donc le mot s'est vidé de son sens. La modernité, donc on a préféré moderne parce que c'est le mot qu'utilise Mallarmé pour désigner non pas simplement un type de sujet, mais aussi une sorte de... le mot est affreux, positionnement. C'est-à-dire que pour Mallarmé, être moderne, c'est un type de sujet, un vocabulaire plastique, et c'est une façon aussi de s'adresser au public.
Besse-Brombert.
Oui, j'allais dire, moderne, certainement, il est.
Et, en quoi, pour vous?
Eh bien, pour moi, on peut, par exemple, prendre un tableau comme La Gare, la comparer au tableau de La Gare Saint-Lazare de Monet, et voir un monde, un univers qui les sépare. Chez Manet, on ne voit même pas la gare. On ne voit pas un train, on ne voit rien. On voit une femme devant une bouffée de vapeur. tout est imagination, tout est émotion, tout est rêverie. Manet laisse un monde ouvert au spectateur, laisse au spectateur de remplir ce monde, tandis que Manet vous donne ce qu'il vous donne, c'est-à-dire vous voyez, comme on dit en anglais, « what you see is what you get ». C'est la gare Saint-Lazare et il n'y a, pas à, se méprendre sur ça. Et donc là, si vous voulez, c'est un réalisme avec une technique qui n'est pas forcément réaliste.
Un réalisme chez... romantique chez oui, Manet qu'on n'a pas du tout chez Monet.
Appelez ça romantique c'est si ça. Vous voulez, mais de toute façon, c'est un style moderne avec tout de même des références romantiques dans le sens qu'il joue sur l'imagination.
C'est pour ça que je reprenais le terme. Jean Le Gac.
Sur cette notion de moderne et de modernité.
Il va être le premier, tout de même, je pense, à respecter le plan du tableau, l'aspect plat. Des très beaux tableaux que je ne connaissais pas, comme La Modiste ou bien La Femme aux éventails. Mais c'est déjà, ça anticipe sur Matisse, ça anticipe sur Vuillard, bien entendu. Cette figure, elle est devant, mais déjà, elle rentre dans la tapisserie. Chez Vuillard, elle va y rentrer complètement. Il ouvre des voies. Je me demandais justement s'il avait conscience de cela, parce qu'il est à ce moment-là tellement en avance. Est-ce que parmi ses contemporains, quelqu'un pouvait lui donner idée qu'il avait de nouveaux concepts là ?
Stéphane Guégan, Obès Brombert, il a conscience, en tout cas il l'espère. Il espère être, ça.
Bah, il disait toujours que les gens de la prochaine génération verront mieux. Donc, il misait sur l'avenir.
D'accord.
Alors, parmi les tableaux qui sont présentés dans l'exposition, il y en a un qui s'appelle L'homme mort, qu'on connaît peut-être davantage sous un autre titre, qui est Le Torero mort, tableau à partir duquel, avec six autres artistes, Jean Le Gac, vous avez travaillé donc, pour cette exposition dont on rappellera elle est date dans un instant. Pourquoi est-ce que ce tableau de Manet, Le Torero mort, a été choisi pour des relectures? La vôtre, c'est un autoportrait, donc on vous voit dans l'habit du torero, sauf qu'il n'y a plus la chemise, mais vous êtes dépoitraillé et dans la même position que le tableau original.
Bon, c'est une exposition qui est née en Arles, hein, qui a été initiée par Jean-Marie Bénézet. C'est un lieu de corrida, bien sûr. Ce sont aussi des rendez-vous de peintres. Moi, pendant des années, je suis allé au corrida de Nîmes. Peut-être la corrida m'attirait, mais aussi le fait de rencontrer Viala, Jean-Michel Meurice, peut-être Rougemont, Pagès, que sais-je.
Donc c'était davantage le thème que le peintre ?
Alors, chez l'organisateur, je ne sais pas. Je pense qu'il était au courant peut-être de l'exposition qui allait avoir lieu. Parce que je pense que rien n'est innocent. Quand il m'a proposé ça, moi je n'avais pas beaucoup abordé ce thème. J'avais juste fait l'affiche de la corrida du centenaire à Nîmes. Mais je me suis quand même intéressé à l'aspect langagier. On dit un habit de lumière pour le torero. Alors la lumière, vous ne l'ignorez pas, bien sûr, c'est nécessaire pour la peinture. La poésie, la littérature, la musique, ça peut passer dans l'obscurité. La peinture, non, évidemment. Alors mourir symboliquement un habit de lumière, c'était très tentant. Donc j'ai posé pour cela, j'ai fait une photo comme d'habitude, et j'ai travaillé d'après la photographie. Et je me suis aperçu d'ailleurs que Manet, comme Titien, mais comme bien d'autres, trompe le réel. Sa perspective n'est pas juste si on veut prendre les choses de manière très objective. La tête du torero, par exemple, est assez petite par rapport à la dimension des jambes. C'est-à-dire, ce n'est pas un vrai raccourci. Moi, en photographie, j'ai obtenu un vrai raccourci et on obtient des jambes en forme de sirène. Ça se finit mal. J'ai été obligé de couper la figure en haut, justement, pour ne pas être gêné par cela.
Et qu'avez-vous fait de la main, Jean Le Gac ? Parce que la main est très importante dans le tableau de Manet.
Mais elle est quand même moins belle que celle de Manet, un modelé. Peut-être que nous ne saurons plus faire cela. J'étais peut-être un peu raide, puis je ne suis pas tout jeune quand même. Tandis que c'est un jeune homme qui est dans le tableau. Hein.
Ce tableau, c'est un fragment d'une scène de corrida. Il faut expliquer un peu pourquoi c'est un fragment, Stéphane Guégan.
L'exposition, pour la première fois, on montre à peu près tous les tableaux que Manet a coupés lui-même dans les années 60. Il découvre au Prado 40 Velázquez. L'été 65, il rentre, et entre 65 et 67, il va découper les compositions antérieures, notamment cette scène de tauromachie, exposée en 64, largement critiqué, et dont il va conserver uniquement la partie inférieure, qui devient l'homme mort, donc titre qui, bien sûr, qui prend une dimension plus universelle. Mais comme un photographe ou un cinéaste, il recadre la chose. C'est-à-dire que non seulement il fait disparaître tout ce qui pouvait rappeler la composition antérieure, les pattes du taureau.
Tout le contexte tout disparaît. Le contexte.
Hein. Il noircit, comme Velázquez l'aurait fait lui-même, l'ensemble de la surface, et il découpe de façon unique. Donc, ce torero qui est entre la vie et la mort.
Et c'est une composition en diagonale. On le voit quand on regarde
Bien
le
sûr.
Tableau.
Il tombe vers nous.
Voilà, il tombe vers
un peu comme
la tête est vers nous, les pieds en haut à gauche.
Si on devait parler de ce qui peut venir derrière, c'est vrai qu'on pense par exemple au tableau renversé de Baselitz. Hein, c'est vrai que ce tableau impose une autre vision. Et puis, alors, ce que j'adore chez Manet, c'est le mélange de cruauté et de douceur. De mort et d'érotisme, parce que c'est aussi un tableau d'une sensualité extraordinaire.
Mais Bromberg, dans votre biographie, vous faites des anti-héros, l'un des sujets principaux des tableaux de Manet. Est-ce que cet homme mort peut être vu comme un anti-héros ?
Oh, je trouve, parce que... Voilà, la mort est un thème, je trouve, assez important chez Manet, dans différentes façons. Et évidemment, l'homme mort est visiblement mort, mais il y a d'autres morts. Il y a des morts, par exemple, lors des barricades. Il y a la mort dans ce merveilleux tableau des pivoines. Alors là, on voit justement c'est le cycle entier. On voit les pétales qui tombent sur la table. Et c'est une sorte de vanitas, dans un sens. Mais la mort, évidemment, c'est très important. Mais dans le sens de l'anti-héros, oui, parce qu'on voit le terreau qui est tout de même un personnage héroïque, une figure héroïque. Mais tout de même, une fois mort, il est mort.
Et on voit aussi d'autres. On voit aussi dans la dernière partie de l'exposition des figures qui vont devenir héroïques, notamment des portraits de Georges Clemenceau. L'exposition se termine par l'évasion d'Henri Rochefort, ancien communard. Ouais. Ça marque la couleur politique d'Édouard Manet, qui était un républicain, on va dire, convaincu, mais qui n'était pas forcément son républicanisme.
Un rebelle
très
en redingote.
Très en avant.
Un révolutionnaire.
Il l'a mis très tôt dans la. Donc, c'est effectivement, l'exposition se referme sur la section la politique. Et elle a pour amorce une caricature d'Émile Olivier de 1860, la première œuvre publique de Manet, quasiment. Donc, le dernier premier ministre de Napoléon III. À l'époque, il n'est encore qu'un avocat républicain radical. Donc, il y a ce milieu, qui est le milieu familial, d'ailleurs. Hein. Beff l'a très bien montré dans son livre. C'est un milieu républicain. Et Manet, c'est l'air qu'il a respiré tout jeune. Hein. Dans les lettres qu'il envoie à jeune matelot à ses parents, il commente la situation politique de la Seconde République. Donc, ensuite, il a mis ça dans sa peinture. Il a mis ça dans sa peinture. Comme ses frères, il était proche de Gambetta sous le Second Empire. Et puis, il y a le moment miraculeux, c'est-à-dire la victoire politique de ses amis en 79, la fameuse République des Jules. Et là, il a l'impression, parce qu'il ne se sait pas encore condamné par la maladie qui va l'emporter, il a l'impression que la voie s'ouvre enfin vers le succès officiel. Et donc, il écrit au ministre, il écrit au préfet, « Je suis là, commandez-moi des tableaux, achetez ma peinture. » Et c'est une fin de non-recevoir qu'il va subir des deux côtés. Voilà.
On se quitte sur un air de musique espagnole par Lalo, un contemporain de Manet, tant la peinture espagnole et notamment Velázquez était important pour ce Manet inventeur du moderne qui est donc au musée d'Orsay jusqu'au 3 juillet. Bess Bromberg, Manet, un rebelle en redingote. C'est vrai que le titre est excellent, vous auriez presque pu le prendre pour votre exposition Orsay. C'est publié chez Azan. Jean Le Gac, exposition dans collective Le Torero Mort qui ouvrira ses portes cette exposition le 29 avril à l'espace Jacques Villeglay, c'est à Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Il faut également signaler Le Torero Mort, cette fois c'est chez Actes Sud, mais c'est à partir de l'exposition. Et puis je crois que j'aurais été à peu près complet lorsque j'aurais cité Manet, l'héroïsme de la vie moderne de Stéphane Guégan chez Découverte Gallimard. C'est un hors-série.